Vous écoutez RTL.
RTL,
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Après vous avoir présenté toute l'équipe de la bonne heure, voici notre invité. Depuis qu'il a incarné Greystock, la légende de Tarzan, on sait que cet acteur plein de ressources a la capacité de rebondir de liane en liane et de se raccrocher aux branches. On connaissait l'acteur avec ses grands succès populaires et artistiques comme Subway ou Highlander, ainsi que le producteur, l'homme d'affaires qui fourmille d'idées et investit dans les promotions immobilières. Mais alors qu'il s'apprête à tourner pour Claude Lelouch et les frères Cohen, on retrouve aujourd'hui le romancier et l'auteur de thrillers à l'écriture toute cinématographique. Dans son nouveau thriller, Le Juge, publié chez Plomb, il campe Keller, un justicier en lutte contre l'injustice dans un monde gangréné par la délinquance et la violence. On l'imagine déjà dans le rôle, car son polar est le scénario idéal d'un formidable film. Avec nous ce matin sur RTL, nous avons la chance d'avoir Christophe Lambert.
Rebonjour.
Alors, il y a plein de Christophe Lambert, en fait. Bon, il y a un homonyme, c'est vrai. Il y a Christophe Lambert qui est dans les affaires, qui travaille avec Luc Besson. Mais il y a un Christophe Lambert acteur, un Christophe Lambert producteur, un Christophe Lambert homme d'affaires. Mais alors, celui qu'on reçoit ce matin, c'est le Christophe Lambert écrivain. Après La fille porte-bonheur, c'était il y a 4 ans. Vous publiez chez Plomb votre deuxième roman. C'est un thriller, là, Le Juge. Comment c'est né, cette idée? C'est-à-dire que la volonté de faire un scénario de film, ou plutôt...
Non, pas du tout. J'avais envie d'écrire un polar. Oui. J'avais envie d'écrire un polar pur et dur, noir. Et j'avais envie d'écrire sur la justice, sur l'injustice de la justice. Et l'injustice ne concerne pas uniquement ce qui peut se passer autour des forces de l'ordre qui sont en sous-nombre, qui sont sous-payées. J'ai parlé avec des juges, j'ai parlé avec des policiers.
Avec des gens de la mondaine, vous avez dit. Qu'ils font un travail incroyable alors qu'ils sont sous-payés.
Oui, et puis, il faut pas oublier une chose, ils prennent des risques énormes. Et chaque fois qu'on leur tire dessus, on leur dit attention, faut pas riposter. Oui. Bah autant qu'ils aient pas d'armes. Ils peuvent aller.
C'est un peu comme les Bobby en Angleterre, où ils sont pas armés, non?
Une partie de la police maintenant anglaise qui est armée. Oui. Parce que
c'est un métier
excessivement dangereux.
Mais cela dit, ce qui est incroyable dans votre livre, c'est qu'il y a des scènes de bagarre qui sont extrêmement cinématographiques. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on y est, qu'on voit, on entend les os craquer, pratiquement.
On entend les os craquer. Ouais, c'était le but.
Et... Donc, en fait, on se refait pas. Vous restez un acteur, vous restez, même quand vous écrivez, vous restez acteur.
En tout cas, je pense à l'acteur, mais je ne pense pas que je jouerai le rôle, parce que le personnage du juge de ce Keller est quelqu'un qui a plus 38-40 ans, qui a été surentraîné.
Il a fait du Krav Maga, il a fait.
Oui, il a payé ses études parce qu'il voulait devenir avocat militaire. En rentrant dans l'armée, il est rentré dans les forces spéciales, et il a appris toutes les techniques de combat, du Krav Maga au jiu-jitsu, au karaté.
Il faut pas le chercher. Sinon, on a les os qui craquent.
C'est une machine de guerre sans armes.
Enfin, il y a quand même derrière ce roman, ce thriller, il y a une critique à peine larvée de l'inefficacité des politiques dans la lutte contre la délinquance.
Ben, c'est pas tellement l'inefficacité de la politique ce que j'ai voulu dire, parce que c'est pas un bouquin politique, c'est un roman.
Non, bien sûr.
Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a quand même, et ça c'est une partie de l'injustice, c'est qu'il y a quand même des gens extrêmement haut placés, qui sont extrêmement bien protégés, et qui deviennent intouchables. Et je ne trouve pas ça normal. C'est qu'à partir du moment qu'on soit un politique pédophile ou un prêtre pédophile ou quoi que ce soit, je veux dire, on a droit exactement au même traitement.
Oui, on doit payer.
Vous pensez qu'il y a des gens qui sont protégés,
de la population.
Qui sont,
bien sûr qu'il y a des gens qui
ne sont pas poursuivis, qui ne sont pas...
On le sait, on ne va pas citer de nom.
Ce qu'on sent, en tout cas, c'est ce que à travers Keller, c'est qu'on a été trop laxiste, on a laissé se développer la petite et la grande délinquance, et que les gens de gauche comme de droite ont laissé faire.
Oui, alors là-dessus aussi, il y a une injustice, c'est que on court beaucoup après la petite délinquance qui, en fin de compte, n'a pas une grande importance. Parce que cette petite délinquance est engagée par des sous-lieutenants qui sont eux-mêmes les porte-flingues des gros caïds. Quand il y a 3 tonnes de cocaïne qui passent dans n'importe quel port d'Europe et qu'on arrête des petits délinquants qui ont 30 grammes de shit sur eux, ça sert pas à grand-chose. Donc c'est en fin de compte ce que fait Keller, qui comprend dans le bouquin très très vite qu'il y a une grosse différence entre la vengeance et la justice, et que pour vraiment essayer d'aider, parce qu'il est plutôt du côté des forces de l'ordre, d'essayer d'aider la police, il faut couper la tête du serpent, c'est-à-dire qu'il faut couper l'euro. C'est-à-dire que si on s'attaque pas au sommet de la pyramide, aux gens protégés, on arrivera à rien.
C'est pas en arrêtant les petits. Si on coupe la tête du serpent, est-ce qu'il continue pas de courir?
Ce sont les poules,
ça, généralement.
C'est la queue.
C'est la queue du lézard, on se met pas la tête.
Mais il n'y a pas un animal, on lui coupe la tête. C'est le canard qui continue à courir, non?
Moi, je l'ai pas très longtemps. Je n'ai pas couper la queue d'un serpent, parce que si on se loupe, ça va mal se passer.
C'est pour ça qu'il faut toujours couper
la tête du serpent.
La poule aussi, je crois.
Oui, la poule, elle continue de courir.
Elle compte 30 secondes.
C'est longtemps, regardez Nabila, ça fait 2 ans qu'elle court.
C'est le temps de faire un œuf. Alors, je vous propose maintenant de jouer pour gagner un séjour merveilleux dans un des casinos et hôtels du groupe Partouche. Je ne peux pas tous vous les citer, mais il y en a qui sont vraiment fabuleux.
Ah bah voilà.
Il y en a partout.
On attendait la
À Contrexéville, à Salitte-Béarn, à Divonne-les-Bains, la Trinité-sur-Mer, Le Havre. Partout, il y a des Partouches. Eh bien, alors, 2 nuits, petit déjeuner, repas au restaurant casino, 30 euros de jetons pour jouer. Tout ça sur partouche.com. Alors,
plus les pourquoi de l'histoire.
Mon livre, les pourquoi de l'histoire.
On n'arrive pas à s'en débarrasser.
Alors, ne dites pas ça, la teigne, parce que c'est dans les meilleures ventes. D'abord, très bien. Et justement, j'ai eu envie de faire des cadeaux aux auditeurs d'RTL pour notre avant-dernière semaine, avant la fin de saison.
Vous êtes trop
gentil. Oui, je sais, ça me perd.
Si on fait très généreux, on offre en plus le livre de Christophe
Lambert. Si vous voulez.
Il est d'accord.
Si vous voulez. Si
moi, j'ai aucun problème. Je suis ravi.
Pourquoi? Alors, le mercredi, on cherche une expression. Pourquoi dit-on de quelqu'un qui fait du zèle ou d'un élève qui, en répondant avec un peu trop d'empressement à tous les désirs d'un prof et se fait mal voir de ses camarades de classe, pourquoi dit-on qu'il faillote ou que c'est un faillot? D'où vient cette expression?
Pas facile.
C'est pas facile.
C'est pas culinaire.
Bah vous devriez répondre.
Ça m'a expliqué hier, mais j'ai déjà oublié. C'est dramatique.
Par rapport à la direction, vous, Eric.
C'est la période du faillot.
Vous devriez savoir d'où ça vient que vous êtes un faillot. Alors, ça vient. 3210 ou 74-900 avec le code bonheur en majuscule.
Vous écoutez RTL.
RTL
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Alors, nous sommes de retour en direct et en public dans La Bonne Heure avec Christophe Lambert pour son livre Le Juge. C'est un nouveau thriller qui est haletant, comme on dit, c'est le cas chez Plomb. Alors, revenons à votre héros, ce Keller. C'est un ancien avocat qui a été formé, alors physiquement formé par le Mossad. C'est un as du sport de combat, très efficace, le Krav Maga. J'ai essayé une fois, mais
3 semaines d'hospitalisation.
Ça fait très peur et ça fait très mal.
C'est
un sport qui est très spécial.
Oui.
Parce que c'est pas seulement un sport de combat comme on pourrait assimiler le jiu-jitsu ou le taekwondo ou le karaté.
Oui.
C'est aussi un sport qui touche les points sensibles.
Oui.
C'est-à-dire qu'avec un seul, je veux dire, on a plein de points.
De points
dans les mains, sous les bras, le nez.
Et donc il suffit d'appuyer au bon endroit.
Il suffit d'appuyer au bon moment.
Et l'adversaire,
on met quelqu'un par terre.
Oh, c'est formidable. C'est
formidable. C'est-à-dire que quand vous avez le judo, tout ça, il y a une sorte de philosophie derrière. Toi, le Krav Maga, c'est tuer l'autre, quoi.
La philosophie. Non, absolument.
C'est ça. Il n'y a pas besoin d'être le plus fort. Le tout, c'est de connaître le bouton. Le point.
Il ne faut pas se tromper parce qu'on n'a pas le temps.
C'est de l'acupuncture un peu violente.
Ça va appuyer sur les bons points.
Et ce mec a fait 5 ans de guerre et d'opérations, ce qu'on appelle les Black Ops, les opérations noires, des opérations qui...
Mais vous êtes vraiment documenté sur tout ça.
Ah oui, absolument. J'ai mis un an et demi pour l'écrire.
Oui.
C'est,
mais toujours,
c'est, la, c'est l'armée israélienne qui a démarré ça.
Oui, c'est ça.
Et en fin de compte, aujourd'hui, dans toutes les armées sur les opérations spéciales, on n'utilise pas que des Israéliens. Il y a une multitude de combattants, entre guillemets, de guerriers internationaux qui se regroupent pour des opérations spéciales qui généralement sont toutes petites, c'est-à-dire qu'il y a entre 6 et 15 personnes.
Ah, c'est des unités d'élite.
Ouais, c'est de la super élite.
Super élite, oui.
Mais alors là, vous avez d'un côté la super élite, vous racontez ça merveilleusement bien, puis de l'autre côté, vous fréquentez des gens qui ne sont pas fréquentables. Il y a des méchants qui sont bien vernis. Hein, alors vraiment, c'est vraiment pas des gens recommandables. Il y a des proxénètes, il y a des gens qui ont massacré leur famille, il y a des pédophiles, il y a des violeurs en série, des représentants de la mafia russe. C'est un tutti frutti de tout ce qu'on fait de pire dans la société.
Ben,
c'est un frottis, oui.
Vous savez, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'en fin de compte, à force de... Je pense qu'on est dans une société qui est de plus en plus violente.
Oui.
Et à force de lire, récemment d'ailleurs, qu'un pauvre mec s'est fait massacrer à coups de marteau devant un distributeur à billets pour 20 euros, à force de lire que chaque jour, il y a des femmes qui meurent sur les coups d'un mari ou d'un petit ami, à force de lire qu'on libère un pédophile récidiviste pour un week-end qui va aller violer et tuer un petit garçon de 9 ans, et qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, on a libéré le mauvais mec, que c'était pas lui qui devait sortir, et que de l'autre côté, il n'y a aucune excuse derrière ça. C'est-à-dire, on dit, ah ouais, on est désolé, on s'est gouré. Mais c'est un peu tard. Je me suis dit que j'avais envie d'écrire un bouquin sans en faire quelque chose de politique qui parle de ça. Ce mec, le juge...
Donc c'est votre façon de répondre aussi à toute cette violence dont on souffre quand on lit la presse.
Oui, et puis vous savez aussi de répondre au fait qu'il ne faut pas systématiquement accuser les cités. Je veux dire, quand on voit certaines cités, les choses s'améliorent. La mairie de Paris, comme les mairies des différentes portes parisiennes ou les mairies de province, essayent d'améliorer ces choses-là. Mais il y a vraiment des barres d'immeubles où c'est impossible de vivre. Tout est détruit. Les gens ont la peur au ventre quand ils rentrent chez eux. Et là-dedans, il y a des travailleurs. Et puis tout à coup, il y a une délinquance qui, en fin de compte, sont des petits jeunes de 14 à 16, 17 ans, donc qui sont mineurs, qui sont engagés, comme je disais, par des intermédiaires, qui sont eux-mêmes engagés par des caïds.
Et puis alors, on arrive les gros bonnets.
Eux vivent dans des villas qui sont magnifiques, dans des endroits magnifiques, et qui encaissent tout ce pognon.
Oui.
Et de l'autre côté, je peux pas m'empêcher, et je rebondis sur ce que vous disiez, c'est que on peut pas faire rentrer des kilotonnes de drogue dans n'importe quel pays du monde s'il n'y a pas une protection politique, financière, économique. C'est impossible. C'est impossible. Alors, de temps en temps, on fait des arrangements en disant... laisse-nous prendre 300 kilos parce que il faut quand même que la police n'ait pas l'air complètement démunie.
Donc de temps en temps elle prend une, mais il la garde mal, hein. J'ai vu qu'il y avait
à Lyon,
ils en ont eu des fuites.
Vous écoutez RTL.